Ma femme est immunosupprimée, puis elle est super sensible à toutes ces affaires-là, puis elle m'a demandé, tu sais, de, par respect pour elle, fais attention, garde ton masque. Puis moi, comme un bon mari aimant, je me suis dit, c'est beau, je vais garder mon masque, même si ça dérange peut-être certaines personnes. Là, j'ai un sujet bien intéressant, la colère de Dieu. Peut-être que ça va vous mettre en colère que je garde mon masque. Mais le PowerPoint, là, c'est-tu moi qui dois... Naomi, es-tu là? Oui, OK. Dans le fond, c'est un sujet c'est difficile, la colère de Dieu. Ça me tentait tellement pas parler de la colère de Dieu que j'ai dit, ben on va parler de l'amour de Dieu en même temps aussi, ça va passer mieux. Mais c'est comme un reproche hein, qu'on fait à Dieu, que Dieu se mette en colère, Dieu de colère, puis tout ça. Et puis je me suis dit, comment tu sais, ça m'intéressait, comment je pourrais répondre à cette objection-là? Parce que c'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 600 fois ça parle de la colère de Dieu, à part des autres fois où ça revient au même. Je ne sais pas vous comment vous sentez face à ça, tu sais, cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu sais, il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait des sujets plus déplaisants qui provoquent autant de répulsion que l'idée de la colère de Dieu. Peut-être que celui de l'enfer là, serait dans la même catégorie, mais dans le fond, les deux sont reliés. Tu sais, si Dieu il y a un enfer éternel, c'est parce à cause de l'immensité de sa colère. Et là, on creuse notre trou. Là, tu sais, c'est... Je me souviens, dans notre groupe maison, Jean, tu sais, je vais partager une petite affaire que tu avais partagée. Tu sais, quand tu étais à Saint-Tite avec l'Association des fermiers chrétiens à partager l'Évangile, Jean nous avait raconté, Jean aime beaucoup l'évangélisation, puis nous avait raconté qu'il avait rentré, je pense que c'était une femme, tu sais, puis tu lui expliquais, ben écoute, si on reçoit le cadeau de Dieu, du pardon en Jésus, on pourrait être dans la présence de Dieu éternellement. Là, la femme n'était pas bête, puis elle dit, ouais. Puis les autres, qu'est-ce qui se passe? Et là, Jean, il dit pas provoquant pour Saint-Saëns, tu sais, il dit, ben, ils ne pourront pas être dans la présence de Dieu. Ben, forcément. Là, la femme a dit, comme ça, c'est l'enfer, ça. Ben oui. Ah, ben moi, je ne veux rien savoir de ça. Et puis là, elle est partie. C'est ça, Jean? Tu sais, c'est pas mal ça. Tu sais, elle était choquée, offensée que Dieu puisse se mettre en colère, puis que même il y ait un enfer. Et puis, je me souviens, j'avais été voir, je ne veux pas le nommer, là, mais un professionnel de la santé. Et puis, mon rendez-vous, c'était à la fin de la journée, fait qu'on jasait ensemble, on parlait des choses de Dieu. Et puis tu sais, il avait fini sa journée, on sort dehors, puis tout ça. Je pense qu'il continuait à jaser, mais il avait quelque chose à me dire. Et puis là, on était rendu dehors, puis il me dit, écoute bien, moi là, parce qu'il savait que je travaillais dans les écoles, et, au Cap. Il dit, s'il y en a un qui parle de l'enfer à ma fille, là, il va avoir ça dans le derrière. Fait que sec de même, là, tu sais. Puis, mais, bon, tu sais, j'ai pas rajouté, parce que je comprenais que ça passait pas. Tu sais, il appartient à un groupe religieux modernisé, où est-ce que Dieu, il est pas comme ça. Dieu, il est comme, il est gentil, il est doux, il est dégriffé, il est édenté, il est castré. Tu sais, un Dieu inoffensif, comme on l'aime. Et puis, ben, tu sais, je comprenais, tu sais, que dans le fond, il comprenait pas, puis que ça le blessait, ça le heurtait, ça, ce sujet-là. Tu sais, c'est une doctrine répugnante pour les gens La plupart des gens, on peut se le dire même. Dieu est censé être un Dieu d'amour, qui fasse sa job un peu, qui s'occupe du monde, de la planète, il est supposé nous aimer. Et là, s'il se met en colère, c'est moi qui vais se fâcher. Puis tu vas voir, là, je vais le remplacer, je vais en trouver un qui a plus d'allure, c'est comme une relique de l'ancien temps, les tribus anciennes ou les dieux païens des Grecs, qui se mettaient en colère, qui lançaient des éclairs, une maladie, un tremblement de terre, les dieux romains, puis tout ça, ou à Hawaï, là, ceux qui faisaient les volcans, là, puis on va jeter la fille du chef dans le trou, là, vous avez entendu parler de ça. C'est pour calmer la colère de ce dieu-là, mais ça a l'air un peu comme ça, juste pour les gens ignorants puis violents d'avant, pour les garder straight, à marcher comme il faut. Puis nous autres, on n'est pas comme ça, on n'a pas besoin d'un dieu qui a besoin de se calmer. On est des gens civilisés, fait qu'on n'a plus besoin des légendes de même. Tu sais, j'explique un petit peu c'est quoi la pensée, parce qu'il faut qu'on me comprenne, d'où c'est que ça sort, cette répugnance-là à l'idée de la colère de Dieu. Mais tu sais, je ne suis pas si sûr qu'on soit plus civilisé que les autres. On se pense plus civilisé. On a eu deux guerres mondiales, on lutte avec des dépendances contre la drogue, contre la pornographie, on pourrait leur en enseigner bien des affaires de nous autres, des civilisés, sur comment faire la guerre, comment opprimer les peuples, les pauvres. On pourrait leur donner des leçons. Fait que c'est ça. Quand on parle de nos jours d'un Dieu, de la colère de Dieu, c'est comme une tactique. Écoute, là, tu veux me faire peur, là, puis tu veux que je marche d'un rang. Ça, c'était dans le Moyen Âge. Nous autres, ici au Québec, on s'est débarrassé de ces niaiseries-là. Ça ressemble-tu à ça? Bon. Pas mal, mais. Fait que là, on part de ce point-là. Et puis, comment est-ce qu'on peut adresser la difficulté? Et puis, d'une façon, qui honore Dieu. Est-ce qu'il y a un côté qui honore la sainteté, un côté noble à la colère de Dieu, un côté beau? Oui, mais c'est un petit peu ça là, à checker, parce que je pense que même parmi les chrétiens, le côté de bon et beau et cohérent avec l'amour de Dieu, on a ça ne fit pas facilement. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Oui? OK. Fait que, juste regarder des définitions, là, c'est quoi la colère pour qu'on puisse parler de la colère de Dieu? Fait qu'y a-t-il des éléments répugnants qu'on pense que c'est dans la colère, dans la définition de la colère, que ce n'est pas vraiment là-dedans? Puis, fait que c'est un état affectif violent. Ça vient du Larousse, là. Et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement. Puis c'est souvent ça, là, j'ai mis en jaune, parce que c'est dans toutes les définitions que la personne n'est pas contente, puis elle fait savoir d'une façon agressive ou vive, un vif. Se mettre en colère, OK. Le Robert, violent mécontentement accompagné d'agressivité. Hey, ça passe pas, là, puis, je suis pas content. Mais, je le dis, là, c'est clair. Vive, de dictionnaire de la langue française, vive émotion de l'âme se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Dans un dictionnaire biblique, OK, ça revient même pas mal à ça aussi. Généralement, la colère naît chez quelqu'un lorsque l'on menace ce qui a de la valeur pour lui, ce qu'il chérit. La colère se traduit par des paroles de mécontentement, une respiration bruyante, le gars, il pompe. Et puis des fois, c'est par analogie, on dit de Dieu, l'image des narines, narinées. Apparemment, narinées, c'est un mot qui est comme se mettre en colère. Et de l'agressivité à l'égard de celui qui l'offense. La colère est passagère, elle monte à travers les mots et les gestes, mais elle peut aussi être contenue. Puis il y a une colère sourde. Il n'y a rien qui paraît, mais le gars, il n'est pas content. Puis des fois, c'est pire. D'accord avec moi? Parce que là, ça nous prend au dépourvu. C'était pas annoncé. Et puis, j'aimerais ça, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on fouille un petit peu, qu'on regarde dans la Bible, qu'on se familiarise, qu'on apprivoise peut-être certains textes. Et puis, la semaine prochaine, bon, de continuer sur ce sujet joyeux. Le texte que j'aimerais voir maintenant, c'est le premier texte un peu qu'on trouve dans la Bible au sujet de la colère de Dieu. Puis c'est face à la première faute, la première rébellion dans Genèse 3. Et puis là, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il deal avec ça, lui, comment il se met en colère. Puis quand il n'est pas content, quand il est très mécontent. Fait que Genèse 3, vous connaissez tous, mais on va le lire tranquillement. Le texte. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » Okay? Il avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu leur avait dit non. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et Satan était venu, avait trompé, séduit Ève, qui en avait donné à son mari, Adam. Les deux avaient désobéi. En supposant aussi, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, connaissant le bien et le mal. Oh, hein, puis le fruit avait l'air beau et bon à manger. Et donc, suite à ça, il avait appris qu'il était nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Puis là, on voit comme une enquête légitime, puis admet un peu. Tu sais, je te pose des questions. Dieu, on voit, c'est calme, il check, il est fait, il fait admettre. L'homme répondit, « Mais la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Mais le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Et là, il porte un jugement éclairé, modéré, proportionné. Il n'est pas en train de capoter, là. C'est vraiment équilibré. Tu as fait ça? Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Première prophétie d'une grâce qui serait faite d'un descendant qui lui écraserait la tête, qui aurait victoire finalement sur le mal qu'il avait fait. Là, ça a pris des millénaires avant que ça se réalise, mais c'était vraiment modéré et équilibré, proportionné au blâme. Il y avait une blâme. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Fait que là, il y aurait des difficultés relationnelles qui suivraient de ça. Et des difficultés au niveau médical dans l'accouchement. Bon, bien, il y a une conséquence. T'sais, vous vous êtes révolté contre mon autorité. C'est la première fois que je vous ai créé. Mais moi, il faut que je porte un jugement, il faut que j'intervienne, ben, je le fais. Et j'arrête le mal, et je punis, je donne une conséquence à celui qui a défié mon autorité dans l'univers. Moi, j'avais créé un ordre établi, vous l'avez contesté, ben, OK. Ensuite, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. » C'est pas ce que tu ne savais pas, là. C'était tout limpide, une défiance ouverte. Je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je trouve ça remarquable, dans le fond, que là, c'est juste au niveau environnemental que ça va être difficile de cultiver. Tu vas travailler à la sueur de ton front, tu vas avoir des ronces, des épines. Tu sais, pas une grosse malédiction. Tu sais, moi, j'aurais pensé, c'est comme s'il le laissait à lui-même sur le pire des dégâts qui vont nous arriver, parce que la prochaine génération, la première là, d'Adam et Ève, on voit Caïn qui tue son frère. C'était pas dans la malédiction, ça. Dieu, il n'a pas été démesuré. Jésus dit, la terre, le sol sera maudit à cause de toi. Mais maintenant, tu veux faire à ta tête, puis tes descendants vont être à ton image. Il n'a pas parlé de l'orgueil, il n'a pas parlé de l'égoïsme, il n'a pas parlé de l'amour de l'argent, de posséder, l'amour du pouvoir, de contrôler, d'opprimer, qu'on voit qui fait tellement de mal. Tu sais, quand on regarde l'histoire de l'humanité, puis le mal que l'homme se fait à l'homme ou l'homme à la femme, tu sais, c'est... Et ça, il n'en a pas parlé, puis c'était pas... C'est... Écoute, c'est ton choix, vas-y. Ça t'appartient. Et puis, il l'a comme laissé à lui-même. Mais il a agi donc en juge face à la rébellion. Puis c'est le juge et le souverain qui est offensé. Et puis, de façon raisonnable, c'est un peu ça, là, parce qu'il y a une différence entre peut-être l'idée préconçue qu'on se fait de la colère. Tu sais, la colère de l'homme, c'est un gars qui perd les pédales, il devient irrationnel, émotif. Tu sais, un tireur fou, il voit plus ce qu'il fait, puis c'est à peu près ça, la colère humaine. Mais de Dieu, non. Il ne vient pas se dénaturer, là. Il garde, maintient sa nature d'un Dieu d'ordre, équilibré, juste, un souverain qui s'est fait offenser. Puis là, l'iniquité de la rébellion face à son autorité, bien, j'interviens. Avec équilibre. Et puis, c'est vrai que, tu sais, du côté humain, il y a des fois des saintes colères, tu sais, comme... Moïse, quand il a pris les tables, là, puis, il avait fait un veau d'or. Il a lancé, il a brisé Phinéas, qui, tu sais, face quand il y avait les femmes étrangères qui venaient, tu sais. Bon, il y en a quelques-unes là, que c'était correct, que ça avait de l'allure, mais généralement, on voit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Et puis, en faisant ma petite recherche, je trouvais ça intéressant. Tu sais, Jésus, quand que c'est arrivé le temps, là, les Samaritains ne voulaient pas accueillir Jésus. Puis là, Jacques et puis Jean, là, le bon doux Jean, le gentil, là, qu'est-ce qu'il avait eu comme idée? Il dit... Les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, disent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Ça, c'était la colère de l'homme. Puis Jésus, il dit, « Oh, oh, oh! » se tourna vers eux, les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On ne fait pas ça. » C'est lui, c'est quand il était chez les Samaritains, il a vu la Samaritaine, puis... Donne-moi à boire, tu sais, puis qu'il a approché tellement beau, puis tout ça, puis tout le village aussi, c'est venu, c'est plus à cause de ce que tu as dit, de tes paroles. Nous, on l'a entendu, puis on sait que c'est le sauveur du monde. C'est ça qu'il avait, c'est ça qu'il voulait, son plan pour les Samaritains. Puis eux autres, c'est comme, ils disent ça en anglais, trigger happy, là, tu sais, qui aime la gâchette facile. Tu sais, T'sais, il avait fait des miracles déjà, il avait envoyé les 12 deux par deux dans les villages, puis ça se guérissait, puis ça les démons s'oubliaient, puis tout ça, puis j'ai vu Satan tomber du ciel. Ah, c'était vraiment le fun. Fait que là, tu sais, ça serait facile, un petit tonnerre, un petit éclair, et zap, l'opposition est réglée. Mais il avait interdit, justement, de faire agir la colère de Dieu. C'est pas à moi à forcer Dieu à agir. Dans la colère. C'est comme s'il y a bien des limitations que la Bible nous donne. Non. Ça t'appartient pas. Parce que toi, là, le problème, là, c'est que tu manques d'équilibre. C'est bien difficile avec quelque chose d'aussi fort et puissant que la colère comme émotion de maintenir un équilibre. Si on va voir dans Romains, puis ça, là, regardons-le tranquillement, là, puis regardons si on arrive à mettre en pratique. OK? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Fait que les hommes qui nous feraient mettre en colère, comme les hommes qui nous feraient mettre joyeux. Avec tous les hommes, si ça dépend de, tant que ça dépend de vous, là, soyez en paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Toi, la colère, là, c'est pas de tes affaires. Toi, tu te venges pas. Tu n'y penses même pas. Tu laisses agir la colère de Dieu. Et c'est pour indiquer un peu que, dans le fond, dans son ensemble, quand on réfléchit à la colère de Dieu, c'est de réaliser à quel point qu'elle est différente de la colère des hommes. Quand il dit non, toi, tu ne rentres pas sur ce terrain-là, tu laisses agir la colère, car il est écrit « à moi ». C'était dans l'Ancien Testament, mais c'est repris dans le Nouveau Testament. La semaine prochaine, j'aimerais ça voir un petit peu la critique de ceux qui disent « oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament ». Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance dont nous parlait Yvan, c'est pas pareil. Mais oui, mais c'est repris, ça, dans le livre de Romains. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il dit, il faut que tu sois actif, pas juste même passif. Tu le vois, là, il a soif. Pas de mes affaires. Pas de mes problèmes. Non, non, il dit, implique-toi, tu lui donnes à boire. Et puis, Saint, ça dit dans l'Ancien Testament, si tu vois l'âne de ton prochain ployé sous un fardeau, et puis que là, tu sais, personne n'est là pour s'en occuper, libère-le de ton fardeau. Même si tu n'es pas en bon terme avec ton voisin, là, tu ne t'en laves pas les mains, tu ne dis pas, c'est pas de mes affaires. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Bon, certains disent, c'est comme sur sa conscience. C'est pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'il est gentil envers moi? Pourquoi qu'il se revenge pas, lui? Et que ça touche sa conscience. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est comme le terrain, là, de la colère. C'est pas fait pour des humains. Si on va voir un petit peu dans Matthieu 5, c'est comme si même c'était interdit. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Oups! C'est comme si Jésus nous dit, « T'as beau être chrétien, puis tout ça, là, puis, mais moi, je te dis, touche pas à ça. Ça, c'est pas pour toi, la colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Celui qui dira à son frère, « Raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, donc par la Cour suprême, d'Israël, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est pas grand-chose, « insensé ». Il dit « non, 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 le feu de la Géhenne, c'est l'enfer. » Et puis là, bon, Paul, il est un petit peu plus permissif, on pourrait dire, là, « si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Fait que peut-être qu'il donne un peu plus de concessions, mais on comprend l'idée, là, que la colère ne nous est pas autorisé, que laisse ça à Dieu, parce que la colère de l'homme ne correspond pas à la colère de Dieu. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde peut-être un autre passage, parce qu'on reproche ça, tu sais, en rencontrant des non-chrétiens, des « ouais, mais tu sais, Dieu, dans le temps, Jésus, là, tu sais, c'était violent, son affaire, tu sais, c'est un péché, ça, hein? » Puis là, qu'est-ce qu'on répond à ça? Comment qu'on gère cette patate chaude-là? Bien, lisons-le. Un petit peu dans cet angle-là, puis qu'est-ce qu'on peut dire là, à sa défense? La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les changeurs assis. Ben, c'est quand même pas immoral à ce point-là, ça n'a pas l'air. T'sais, ils font de la petite business comme... pour aider le culte des gens qui venaient. Il y avait besoin d'acheter un bon petit bœuf ou des brebis. on va leur enfourner. C'est pratique, c'est tellement pratique. C'est ici, direct dans le temple, c'est la commodité. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Quelle violence, quelle agressivité, quel manque de contrôle de soi. Tu sais, c'est un petit peu le discours, là. La critique qu'on suppose qu'on entend. J'aurais jamais fait ça. Et dit au vendeur de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et essayons de comprendre, essayons de voir un petit peu l'envers. T'sais, est-ce que la colère est toujours déplacée? Si quelqu'un fait du mal à ma fille, mes petits-enfants, puis que je reste en contrôle et que je dis rien, on va dire, t'as pas d'allure. Tu n'es même pas capable de te fâcher quand ça vaut la peine. Là, c'est le temps de se fâcher. Hey, là, lâchez-la. Puis, tu sais, ça serait le temps, là, de se fâcher. Fait que des fois, oui, il faut se fâcher. Et de ne pas se fâcher, c'est un défaut. C'est de manquer de courage. Et là, Jésus rentre tout seul dans le temple, puis il voit ça. Attends une minute, là. Tu sais, où c'est qu'il était, là? Ça, c'était dans le parvis. Des gentils, des païens, c'est la place des païens. Les Juifs, ils avaient leur place, mais il y avait la cour des païens. Puis les Juifs, ils avaient été prendre cette place-là, là, les païens qui me cherchent, qui cherchent Dieu. Dieu se disait, ils n'ont même plus de place pour eux autres, ils ne peuvent plus rentrer. C'est des bœufs qui sont là, puis des moutons. C'est pas correct. Si je veux qu'il y avait une place pour les nations qui me craignent, qui me cherchent. Vous l'avez tassé, ça. Ça, c'est offensant. C'était la maison de mon père. Puis là, et en fait, un fouet avec des cordes. Il n'a pas pris une AK-47. Non. Il a fait un fouet. Puis là, le fouet, c'était pour les bœufs. C'était pas pour en face, puis défigurer, puis rendre des marchands borgnes. Non. Il a fait un fouet pour les bœufs. Puis là, il chassa du temple ainsi que les brebis. Puis là, il a tout désorganisé le commerce. Oui, c'est vrai, ça a marché, c'était efficace son affaire, mais il avait le courage de voir quand quelque chose est mal, de l'appeler mal, et puis d'intervenir, de ne pas rester indifférent, les bras croisés. Fait que c'était contenu, mais on voyait bien qu'il était en colère. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les dispersa. Il n'a pas volé l'argent, il a juste fait ça. Qu'un, cherche-la. Tu sais, amuse-toi. Tu sais, ça ne marchera plus, t'en feras plus d'échange d'argent, pas dans cette maison-là. Puis, il n'a pas blessé le monde, il n'a pas volé de l'argent. Il dit au vendeur de pigeons, « Ôtez ça d'ici, il ne les a pas fait enfuir pour que, hey, j'ai perdu. » Non. Il a juste dit, « Hey, débarrasse. » Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, d'une caverne de voleurs. Puis c'est ça le côté méchant, déshonorant pour Dieu, que le païen qui voulait s'approcher, il avait pas d'accès pour lui, et que c'était simplement du troc puis des prix jackés, tu sais, abusifs, excessifs, puis qui était irritant en plus de ça. Fait que ce qui nous paraît une violence excessive. Dans le fond, c'est tout à fait équilibré. Il a pas blessé personne. Il a blessé peut-être un orgueil. Et puis, il a blessé le portefeuille, mais il a pas blessé la personne. Il a pas volé, il a pas détruit. Mais il a simplement fait comprendre que c'était pas acceptable. fait qu'avec un équilibre. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde, dans le fond, c'est peut-être le passage le plus abondant, le plus développé dans le Nouveau Testament au sujet de la colère de Dieu. C'est dans Romains, au chapitre 1. Et puis, ça vaut la peine de... Moi, j'avais écouté, dans le fond, beaucoup de ça, ça venait d'un message de Don Carson. Et puis, j'avais trouvé ça vraiment bon, parce qu'il expliquait un peu la mécanique derrière ça. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et là, il va donner plusieurs explications. Parce que, tu sais, comme moi, là, quand je n'étais pas chrétien, là, je ne pouvais pas concevoir que Dieu soit en colère envers moi. C'était... Hein? Mais même, je ne me voyais même pas pécheur. Je ne suis pas un criminel, moi, tu sais. Pourquoi, là? C'est quoi le problème?
Fait que, et là, il va prendre 2 chapitres et demi pour expliquer cette phrase-là. 2 chapitres et demi. Puis, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir un petit peu la conclusion de tout ça, où est-ce qu'il en débouche. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité était disponible, était accessible, mais qui la retiennent étouffée. Mais c'est sûr que on a besoin d'être éclairé concernant cette incrimination-là, ce reproche-là qui nous est fait, qui ne semble pas évident. Car, là, OK, je vais vous expliquer un peu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il y a des évidences. Peut-être pas toutes de Dieu, mais il y a des choses. Celles qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, j'explique. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. 3 choses. Il y a 3 choses qu'on peut connaître de Dieu qui sont manifestes pour nous. Se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Toute la création, il dit ça, la nature nous parle d'un créateur. Que dit le chant, OK? Que de voir, puis là, c'est fascinant là, quand on se penche sur ça un petit peu. C'est comme, je reviens du camp de la Villa du Carmel avec 2 semaines avec les jeunes, puis on parlait un petit peu de ça. Bien, je leur parlais un petit peu de ça. Tu sais, mettons, en tout cas, l'émergence de la vie pour les scientifiques à partir de la non-vie. Bien, il faudrait que tu aies une membrane. Puis pour, il faut que la petite bébite, la cellule, il faut qu'elle respire, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle excrète ses excréments. Il faut qu'elle se reproduise. Mais là, si tu parles de reproduction, juste ça, là. Mais là, ça te prend un code génétique. Mais là, ta minute. Code génétique. Comment tu vas stocker ton code génétique? Puis là, dans chacune de nos 3 milliards de cellules, tu as 6 pieds de code génétique. Et c'est tout enroulé. Puis là, juste l'enroulage de tout ça, c'est super compliqué. Puis juste de faire de l'énergie, là, la molécule d'ATP, là, parce que tu as besoin d'énergie, c'est pour vivre. Tu as besoin d'énergie pour te reproduire, pour manger, pour tout faire. Tu as besoin d'énergie. Bon, comment tu vas la faire? Là, ils nous expliquent un petit peu comment qu'on fait l'énergie. Ils ont trouvé comment ça se... Mais là, c'est bien trop compliqué. Mais ça, il faut que ça arrive tout seul, tout de suite, le premier matin que la vie commence. Il faut qu'elle sache stocker de l'énergie. Et là, d'autres scientifiques qui sont chrétiens disent, plus tu avances, plus tu en connais, plus tu recules. Parce qu'on voit souvent ça, c'est on a trouvé comment faire la vie. Puis là, il donne un exemple. En tout cas, je n'allongerai pas sur ça, là, mais lui, il dit, je le sais, là, moi, je suis là-dedans aussi, dans la communauté sur les origines de la vie, communauté scientifique. Puis là, on est loin, puis plus qu'on avance, plus qu'on réalise qu'on est plus loin qu'on pensait. Pour expliquer que c'est bien trop compliqué, puis que ça arrive tout seul, tout en place, parce que tu ne peux pas avoir juste une partie en place. Mais en tout cas, j'allonge pas, je comprenais l'idée que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, comme elle est venue depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et ça, c'est important parce que quand tu as une colère, c'est parce qu'elle est méritée. Il n'y a pas d'injustice, ils sont inexcusables, puis ils gardent la vérité captive, ils pourraient l'avoir. Puis écoute, quand Dieu va montrer un jour sa colère, il n'y aura pas de « Ah, oh, ben là, tu sais, c'est pas juste. » Toute bouche sera fermée. Et c'est, bon, un petit peu rassurant ou envers Dieu de dire « Ouais, non, non, ça va être juste, ça va être équilibré. » Puis, tu sais, on pourrait se dire, oui, mais si Dieu n'y avait pas de colère, ce serait pas mieux, ça? Non, non. Non, non, c'est comme un écosystème. Hein? Quand tu enlèves un petit oiseau qui n'a pas rapport, mettons, ou tu enlèves une petite plante, là, tout d'un coup, ça l'affecte ça, ça l'affecte ça, ça l'affecte ça, ça tombe à terre, ça, non, non, non. Là, tout déraille. Un écosystème en équilibre. Hein? Mais si tu enlèves la colère de Dieu, c'est un Dieu qui, devant le mal, il dit rien. Il est indifférent au mal. Ça ne te dérange pas. Moi, je suis correct. Je n'en ai pas de problème. Vous, là, vous laisse faire. C'est pas juste qu'on dirait Dieu devrait combattre le... Pourquoi est-ce qu'il permet le mal, puis tout ça? Puis là, on veut qu'il arrête le mal qui nous dérange et qu'il nous laisse faire le mal qui nous arrange. Puis, non, tu sais, c'est un Dieu qui a des valeurs morales. C'est pas là une puissance, c'est comme le karma, une puissance aveugle. Tu craches en l'air, ça va te retomber sur le nez. C'est mécanique, ça arrive tout seul, ça se fait de même, c'est une loi naturelle. Puis, non, tu as une vraie personne qui a une vraie offense. C'est un Dieu personnel qui est offensé personnellement et qui, lui, est moralement saint et pur et qui va intervenir avec colère. Et la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu. Est-ce qu'on peut parler de la colère de Dieu comme on parle de l'amour de Dieu? Tu sais, Dieu est amour. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose que Dieu est colère? Grosse différence. Puis on va voir un peu pourquoi. Mais juste pour conclure, c'est ça, les gens sont offensés, tu sais, quand on parle de la colère de Dieu, comme quoi c'est un comportement incompatible avec un Dieu juste et équilibré. Puis aussi, ils refusent le droit à Dieu de se mettre en colère contre des gens comme moi. Tu sais, je pensais, je ne suis pas un criminel. Et puis, sa job, c'est de runner l'univers, là, puis de créer des conditions favorables aux êtres humains, puis d'être un bon Dieu à sa place. Fais ta job, puis... Fait qu'il faut qu'il y ait une illumination du Saint-Esprit. Tu sais, ça dit... Je ne sais pas si je l'ai mis le verset, je pense pas. OK, t'as une minute. Là, c'est la suite. Une illumination, tu sais, quand il dit que le Saint-Esprit convaincra les hommes de péché, de justice, de jugement. Mais il faut que ça vienne. Tu sais, moi, comme je vous l'avais dit, j'avais pas cette compréhension-là. Face au péché. Et puis, cette parole-là choque de la colère de Dieu quand on ne comprend pas la notion de péché. Et puis, j'avais vu un verset super intéressant, c'est Jean 8, 45, où est-ce que Jésus dit aux pharisiens qui ne voulaient pas comprendre, il dit, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Puis la vérité les faisait pas croire. C'est pas « même si je vous ai dit la vérité, vous ne me croyez pas ». Non. De dire la vérité, c'était la cause de leur manque de foi. Parce que je vous ai dit la vérité, vous ne croyez pas. Et nous, en présentant un Dieu souverain, personnel, moral, qui est offensé, si on se rébelle contre lui, non. Comme dans l'histoire de Jean, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et parce qu'on dit la vérité, c'est ça qui rejette. Puis il y a toute une génération qu'on voit ici au Québec à cause de l'abus d'une fausse église, je dirais, tu sais, qui a contrôlé, qui a abusé, qui a manipulé. Que les gens se tournent comme ça, puis si tu leur dis la vérité, mais c'est ça qui les amène à ne pas croire. J'avais quelqu'un que j'ai rencontré, puis j'avais parlé souvent du Seigneur avec. Et puis là, la personne, elle m'arrive, je reçois un texte sur Messenger pendant qu'on était justement dans le groupe vie, elle dit « Dieu m'a parlé ». Fait que là, après la réunion, tu sais, là, j'ai écrit, puis là, on fait un zoom pendant 2 heures de temps. Hein? Là, elle m'explique tout ça, elle était tremblante, elle dit, oui, tu sais, c'est une expérience spirituelle. Ben, je dis, wow, tu sais, ça m'est même pas arrivé, moi, à ça, tu sais, je m'a pas parlé comme ça, mais je dis, tu sais, ça te donne une certaine responsabilité. Si Dieu te parle, il faut que tu répondes. Ouais, c'est vrai. Puis, comment tu vas répondre? C'est qui Dieu pour toi? Ben là, je ne sais pas vraiment, tu sais. Elle avait la personne, sa petite théorie, puis tout ça. Bien, écoute, tu peux au moins le chercher, puis découvrir, chercher à le connaître. Pas ce que tu penses de lui ou que tu projettes qu'il devrait penser ça, mais qu'est-ce que lui dit de lui-même? Oui, mais quelle religion, puis tout ça? Bien, je dis, étudie-les, regarde un peu. Puis celle du christianisme, je peux t'en parler. Je pourrais te parler de l'islam aussi, mais vu que je ne suis pas un pratiquant, tu sais, fais ton enquête. Mais là, as-tu une Bible, un Nouveau Testament? Ouais. Mais tu sais, veux-tu que je te résume un petit peu c'est quoi le message de Jésus? C'est quoi le message de la Bible? Tu sais, au moins tu l'as reçu, tu en feras ce que tu voudras. Mais au moins tu le sauras. Elle dit, ouais, OK, c'est bon. Puis là, j'explique un petit peu, tu sais, au début, il y a eu le péché, la chute de l'homme, le mal, qu'on est enclin au mal, et puis même la loi a été donnée, nous provoquant, qui provoque notre chair. C'est ça que Benoît nous disait les deux dernières semaines. Et puis qu'il y a le mal en nous, puis il y a eu des sacrifices. Le temple, là, ça servait à une chose, offrir des sacrifices où est-ce qu'une victime innocente mourait pour le coupable. Ils mettaient les mains sur la tête, confessaient leurs péchés, et la victime mourait à la place du coupable. Et ça préfigurait, ça l'annonçait ce qu'allait venir. C'est ça le message du christianisme, c'est que voici l'agneau de Dieu. C'est pas l'agneau de Pierre ou de Thomas. C'était l'agneau que Dieu lui-même donnait, qui ôte le péché. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Oui, c'est... Et là, une fois qu'elle avait comme catché l'idée, elle dit, ouais, mais sais-tu, je vois pas ça tout à fait de même, moi. T'sais, pourquoi qu'il y a besoin de faire mourir des animaux? C'est quoi cette affaire-là? Puis, tu sais, dans la culture vegan, parce que les animaux ont des droits. J'étais en cours à l'université, puis le prof avait demandé si tu vois ton voisin qui se noie ou ton chat qui se noie. Puis là, il y avait vraiment là, des filles qui se posaient la question. Ouais, je ne sais pas lequel que je vais secourir en premier. Parce que les animaux, ils ont des droits, eux autres aussi, puis mon chat, tu sais, c'est bien important. OK. Fait que là, de parler que des animaux, des victimes innocentes, étaient sacrifiées pour le coupable, et là que ça représentait Jésus qui donnait sa vie pour mourir sur la croix, pour payer pour mes péchés, pour satisfaire la justice et la colère de Dieu... Là, tout d'un coup, il y a eu un froid. Tu sais, au début de la conversation, c'était très chaleureux. Puis à la fin, ça avait perdu plusieurs degrés. Puis, tu sais, on s'est reparlé, on s'est écrit plusieurs fois depuis. Puis là, je suis en paix là, avec toutes ces affaires-là. Ça la troublait beaucoup, mais là, ça... Mais juste pour dire qu'il faut une illumination, que Dieu ouvre les yeux, puis... Comment ça marche, l'élection, la prédestination, d'autres belles doctrines qui offensent beaucoup les êtres humains, mais qu'on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais sur la notion de qui voudrait un Dieu qui ne sache pas se mettre en colère, mais que ce serait un monstre à la fin, s'il n'y a pas de force morale. Et c'est ça, la première prochaine fois, j'aimerais parler là, de... Est-ce qu'on peut parler de la colère de Dieu comme de l'amour de Dieu? Et puis l'Ancien Testament, est-ce que Dieu aussi peut se mettre en colère contre des chrétiens? Mais non. Mais comment ça se fait qu'il a tué Ananias et Saphira, traite de même, en plein traite là? Voyons donc. Et puis là, d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ces affaires-là. Je ne sais pas si on avait commencé en priant. Je pense que non, hein? C'est pas correct, ça. Oui. OK, mais priez pour moi et priez pour nous, puis qu'on sache, parce que, tu sais, on peut faire un fiasco en parlant de la colère de Dieu avec beaucoup de colère. On peut le faire, tu sais, humblement, respectueusement, tu sais, comme, tu sais, Jean t'avait fait, c'était correct, tu sais, Moïse, honnêtement, des fois peut-être avec larmes, oui, c'est ça. C'est celui qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère qui s'en vient. Puis Jean-Baptiste disait aux pharisiens, « Fuyez, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? » qu'on puisse fidèlement, humblement la partager et être en souci pour ceux qui s'exposent à la colère de Dieu sans aucune protection, sans aucun défenseur, sans aucun avocat. De se présenter devant Dieu avec leur propre faute, leur propre offense. « Va y parler, moi, tu vas voir quand je vais le voir. Va y dire, hip boy. » Fait que prions pour ça. Seigneur grand Dieu, merci pour ce moment où est-ce qu'on peut ouvrir ta parole et puis sonder les Écritures sur des doctrines qui sont grandes pour nous, qui nous dépassent même. Et donne-nous de t'honorer, d'honorer ta parole, de ne pas faire comme ceux qui la trafiquent et de la présenter à ceux qui nous entourent, qui sont en danger pour l'éternité. Seigneur, donne-nous d'être fidèles. Donne-nous de courir la course, Seigneur, et puis de ne pas être indifférent au sort de ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas. Toute la multitude qui est autour de nous. Donne-nous d'être ravivés dans notre foi, Seigneur, et de confesser notre indifférence, notre insensibilité face à leur destin. Quand on ne veut pas qu'ils se fâchent contre nous puis qu'on les laisse tout seuls rencontrer la colère de Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur, qu'on te prie dans le nom de Jésus. Amen.